Néo-Québec, dimanche de 13h à 15h. C'est rafraîchissant.
La vie est belle. Ce titre-là, je vais vous donner le nom de son auteur-compositeur un peu plus tard. Le premier invité de l'émission est là. Il s'agit de Monsieur Morija Kitenge-Banza, artiste en art visuel. Je vais prendre une grande respiration. Diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, de l'École supérieure des Beaux-Arts de Nantes, métropole, ainsi que de la Faculté des sciences humaines et sociales de l'Université de La Rochelle. En 2010, il reçoit le premier prix de la Biennale de l'art africain contemporain Dak Art pour la vidéo « Hymne à nous » et pour son installation de 1848 à nos jours. Il a reçu un prix Sobe en 2020. Son travail a notamment été présenté dans différents musées dont je vais vous lister ici les noms. Le musée dauphinois de Grenoble, le Museum of Contemporary Art au Danemark, le Art Gallery et la NJBK à Berlin, la Biennale internationale de Casablanca au Maroc, la Fondation Art Jawirafa Bank au Maroc, la Fondation Blacher en France, le Musée des Beaux-Arts de Montréal, la Fondation FI, le projet CASA, ici, le Musée d'art contemporain de Montréal et pour finir, le Musée des Beaux-Arts du Canada. On compte les œuvres de cet artiste dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Montréal, du Musée d'art contemporain de Montréal, du Musée national des Beaux-Arts du Québec, du Musée des Beaux-Arts du Canada, du Musée des Beaux-Arts de l'Ontario, la collection de la ville de Laval, ainsi que dans de nombreuses collections corporatives, telles que celle de la BMO, la Caisse de dépôt, et le placement du Québec, Canadian Shield Capital, Hydro-Québec, le Mouvement des Jardins, la RBC, la TD. Et pour finir, parce que j'ai aussi cette casquette-là de coprésident de la Fondation Dynastie, il a été récipiendaire du prix Dynastie du meilleur artiste en art visuel en 2022. Les Cambo Tendeko. Ozaline Ngedini.
Naza Malamu.
Voilà.
On commence bien.
On commence en lingala. L'artiste que je reçois, Morija Kitenge-Banza, vous avez compris, originaire de Kinshasa en RDC. Et avec cette biographie que je vous ai donnée, c'est vraiment un privilège. Parce que j'estime que nous n'honorons pas assez les nôtres. Et en te présentant comme tel, c'était important de dire qui tu es, ce que tu fais. Et c'est ce que je voulais faire avec toi. Merci d'être là avec nous aujourd'hui, Morija. J'ai dit qu'aujourd'hui, on n'a même plus besoin de donner le nom. Il suffit juste de dire Morija et puis ça suffit. En ce moment, au moment où on se parle, il y a une exposition qui va se terminer parce que c'est Habiter l'imaginaire qui est au Centre FI. Oui. Le destin a voulu qu'on te reçoive au dernier jour. Au dernier jour de cette qui se termine, la 66, ça se termine dans quelques heures, là, aujourd'hui, ce 8 octobre. Mais voilà, ça n'empêche que je dois dire merci. Merci d'être venu. Comment ça va? Maintenant, on va le dire en français pour que...
pour que tout le monde comprenne.
Voilà, même si tout le monde doit comprendre le lingala à Montréal.
Mais voilà. Non, ça va bien, mais je suis vraiment heureux. Moi aussi, je suis honoré d'être ici avec toi. Donc là, je vais dire toi parce que... Non, oui, moi, non, je devrais dire vous parce non, que chez nous, tu sais, oui, on ne tutoie pas les grands frères. Donc.
Non, on va faire... Sinon, ils vont se demander
qu'est-ce qui arrive. Passe, ouais. Non, mais en tout cas, je suis vraiment très content. Donc comme tu disais, l'expo à la Fondation FI se termine aujourd'hui. Donc les gens ont encore le temps jusqu'à 18h, je pourrais même dire 19h si je ne me trompe pas.
Voilà.
Ils ont le temps d'aller voir l'exposition en fait. Mm-hmm. Donc voilà, donc Habiter l'imaginaire, ils auront l'occasion d'aller tout simplement comprendre un peu mes imaginaires. Mm-hmm. Donc,
J'ai dit en présentant, j'ai dit voilà, artiste en art visuel, mais soyons honnêtes, c'est pas artiste en art visuel. La musique introductive de cette émission, c'est la première chanson qu'on a mise là. C'est pour ça que j'ai dit je vais donner le nom de l'auteur, compositeur après, c'est toi. Mais il y a un album qui est sorti, je pense,
en 2022, l'année dernière.
Et il y a ce titre-là, La vie est belle. Et puis moi, je me rappelle, j'ai découvert ça un soir. Et puis j'ai dit non, c'est pas vrai. Papa Wemba est ressuscité.
Là, hein? C'est une fierté.
On a communiqué, je t'ai envoyé un message, oui, en disant c'est magnifique. Oui, je dis artiste pluridisciplinaire, on connaît. Parce que quand on dit en art visuel, à une certaine époque, là, la mienne, quand on disait art visuel, les gens pensaient juste peinture. Mais alors qu'aujourd'hui, c'est la vidéo.
La vidéo, la peinture, la photo. Mais c'est vrai que la vidéo, des fois, aussi va être catégorisée en art. Le marché catégorise souvent les choses, parce que c'est facile, un peu comme la colonisation catégorisait les choses. Donc, c'est un peu l'art visuel, ça va prendre la photo, la peinture, un peu de vidéo, le dessin aussi. Mais la vidéo, des fois aussi, va être dans l'art média, au fait, les médiatiques ou numériques. Donc, ça va dépendre. Mais nous, les artistes en art visuel, on le fait. Mais aussi, je suis un artiste multidisciplinaire parce que, tantôt, tu as cité mes études. Parce que moi, l'école de Kinshasa, c'est une école de l'Académie de Beaux-Arts.
C'est la plus grande école d'art en Afrique francophone.
Francophone. Parce qu'elle est là depuis 1946. Et là, moi, j'ai étudié l'académisme. Ça veut dire comment peindre les maîtres de la Renaissance. Ça veut dire qu'il fallait avoir le même verre que celui que Léonard de Vinci avait fait sur sa toile.
Mais important ce que tu dis là, parce que là, c'est la... Vous étudiez à cette époque-là plutôt l'art occidental.
Oui, on étudie l'art occidental beaucoup. Même jusqu'aujourd'hui, la façon d'étudier, au fait, elle reste quand même l'art occidental, parce qu'on va étudier les grands maîtres. L'histoire de l'art, ça va être l'histoire de l'art beaucoup occidental, même si on va parler de certains artistes mais congolais, mais pas beaucoup. On reste quand même encore dans l'histoire de l'art occidental. Et pendant quand la deuxième guerre du Congo recommence avec tout ce qui se passait à l'Est, ben moi, je vais décider de voyager. Donc, je vais faire l'école des Beaux-Arts de Nantes. Et là, c'est où je vais arriver dans une école à l'époque où, en France, on essaie un peu de casser tout ce qui est académisme. Donc, ça devient contemporain. Donc, l'école des Beaux-Arts de Nantes va me permettre tout justement de toucher à la vidéo, à la photo, à beaucoup de médias, au fait, à beaucoup de choses. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste en art visuel, j'ai cette occasion-là, si je peux dire, de toucher à beaucoup de médiums différents, parce que j'ai eu deux formations. J'ai eu cette chance-là d'avoir deux formations, en fait, d'écoles différentes. Pas seulement une formation très, très académique, mais une formation aussi qui est très contemporaine, qui est beaucoup basée dans le concept et dans le discours.
D'accord. Et c'est très intéressant ce que tu dis. Je vais juste mentionner que j'ai présenté l'artiste. Il y a l'administrateur, parce qu'à force, tu as fini par t'impliquer dans plusieurs choses. Aujourd'hui, tu es le président du conseil d'administration de Culture Montréal, mais tu es impliqué dans plein d'autres choses. On va aussi aborder ce volet là, mais là tu viens de dire quelque chose qui est très important pour moi et je souhaite l'œuvre, ce que tu fais, de toute façon les gens en ont grosso modo une petite idée. Il y a de grandes œuvres. Moi je me rappelle par exemple la photo authentique, cette fameuse photo où tu es assis, je pense que c'était au Beaux-Arts
Musée des
Beaux-Arts de Montréal, qui est une œuvre quand même remarquable. Dis-nous quelques mots là-dessus. C'est-à-dire que tu avais cette espèce de tissu à motif africain, parce que quand on dit souvent tissu africain, moi ça me fait bizarre, mais tu avais ce tissu à motif africain, puis tu étais assis devant. Qu'est-ce que ça représentait? La photo authentique voulait dire quoi?
Bon, en fait, la photo authentique, elle posait simplement la question de dire c'est quoi être authentique aujourd'hui. Parce que je suis, moi je dis souvent, je commence par dire je suis d'abord congolais avant d'être africain. Donc je suis congolais, je suis africain.
Il y en a qui doivent être en train de sursauter.
Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Mais c'est important et je veux préciser pourquoi je le dis au fait. Je ne nie pas mon africanité au fait, mais dans la singularité que j'ai d'être congolais. Et même congolais, en fait, je ne suis même pas que congolais parce que je suis en même temps du Bandundu et du Katanga.
Ok.
Parce que le Congo, comme je le dis, il y en a encore qui vont sauter là où ils sont. Je le dis, le Congo est une création utopique de Léopold II. Donc on n'a jamais demandé. Mes ancêtres ne se sont jamais assis ensemble en disant « Ah les amis, aujourd'hui on va créer le Congo ». Oui. Non. Donc il y a quelqu'un qui a décidé, ça va s'appeler le Congo, je vais mettre tout le monde dedans. Bon, ok,
extension d'accord. Du royaume de Belgique.
Voilà, ouais. Voilà. On va vivre. Non, Léopold même pas du royaume, son extension privée.
Privée, voilà, légué. Oui, ben, c'était le domaine privé du roi belge à l'époque.
Il nous a légué aux Belges avant sa mort. Et c'est important que je précise toutes ces choses-là, parce que dans la question d'authenticité, aujourd'hui en 2000, quand je fais l'œuvre, c'est 2017 si je ne me trompe pas, je me dis, mais finalement, les gens veulent que je sois l'authentique africain. Mais c'est quoi être authentique africain? Moi, je suis né en 1980. Donc, c'est quoi être authentique quand je suis en 2017, en 2023? Les gens veulent que je sois authentique africain. Est-ce qu'ils veulent que je sois l'authentique que leurs ancêtres ont rencontré en 1800, 1400? Et que leurs ancêtres ont rencontré, mais ils ont fait une image, une utopie pour eux ici dans les journaux, dans les arts et ainsi de suite? Ou bien ils veulent que je sois quel africain? Donc, d'authentique, c'est que je voulais tout simplement parler. C'était cette réflexion de dire, ben, je vis à Montréal, j'assume que je vis à Montréal. Donc j'assume aussi le fait que l'idée de voyager partout, qu'on le veuille ou pas, on amasse avec nous des identités ou des cultures autres quand on voyage.
Bien sûr.
Ça nous enrichit, même si des fois ça peut effacer certaines choses dites de souche de nous, mais ça nous enrichit et c'est normal tout à fait parce que quand on voyage, on vit ailleurs. Et donc dans l'authentique, c'est un peu cette idée-là de dire, ben, je suis à Montréal, je suis Montréalais, je suis maintenant au Québec parce que j'ai ma certification du Québec qu'on nous donne quand on immigre. Donc je suis Canadien en même temps parce que j'ai la citoyenneté canadienne, mais je suis aussi le fruit de toute cette histoire dont je raconte de Léopold II et de toute cette histoire qui a bâti, qui a construit le Congo. Mais c'est aussi un clin d'œil au discours de Mobutu sur le recours
à l'authenticité.
Et c'est un clin d'œil ironique parce que Mobutu, quand il fait... Pour ceux qui ne savent pas, Mobutu était le président du Zaïre. Et c'est lui qui a organisé le combat de Mohamed Ali en 76.
Oui, contre Foreman.
Contre Foreman. Et en fait, Mobutu, quand il fait le recours à l'authenticité, c'est après son coup d'État, il veut reprendre, il veut donner un souffle nouveau au Zaïre. Mais dans son recours à l'authenticité...
Où il fait tomber Lumumba.
Il fait tomber Lumumba et puis voilà, il assassine aussi.
Il le fait assassiner.
Et dans son recours à l'authenticité, il nous demande de porter la bakos. Abakos, ça veut dire abat le costume.
Le costume.
Mais cet abakos est un design asiatique.
Exactement.
Il nous demande de porter le pagne. Le pagne en disant, c'est ça notre culture, ça fait l'image, la fierté de nos mamans. Mais le pagne en question est un pagne qui est fabriqué en Hollande.
Le wax.
Dont les motifs sont indonésiens, qui ont été mélangés un peu avec des trucs. En fait, finalement, il fait un recours à l'authenticité qui n'est pas vraiment authentique, mais qui parle de la richesse du mélange qui s'est fait avec la colonisation, si dure soit-elle, au fait, ou qu'elle a été, avec toute cette histoire des voyages et ainsi de suite. Et c'est ça que je trouvais intéressant. Mobutu nous demande de retrouver nos noms. Et dans son discours de recours à l'authenticité, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la seule chose que je trouverais qui est authentique, qui prend ses racines au Zaïre ou au Congo d'aujourd'hui, en tout cas sur le territoire dans lequel on est, c'est les noms.
Parce qu'il dit, effectivement.
Il dit, je ne veux plus qu'on s'appelle Paul, Michel, Jean et ainsi de suite, je veux qu'on ait nos noms. Donc nos prénoms, ça va être les prénoms que les ancêtres nous donnaient. Ça, c'est ce recours à l'authenticité que je trouve qui est relié à nous directement.
Tout à fait.
Mais les autres choses, c'est un recours à l'authenticité emprunté.
Ouais, en fait. Exactement.
Et donc mon travail authentique, ça parle de tout ça en fait en disant, je suis chrétien catholique, je vais à l'église, chante à la chorale. Parce qu'on a voulu que je devienne chrétien catholique. Donc c'est comme ça que dans la photo, pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui vont la voir, il y a comme une icône. Mais cette icône, c'est une icône byzantine sur laquelle je pose un masque africain. En même temps, je parle déjà de la manière dont moi qui suis catholique, qui utilise des icônes byzantines, qui ont été emmenées par des prêtres jésuites, donc automatiquement, on me partage une religion qui elle-même a déjà beaucoup d'histoire. Et les masques africains sur le Christ, pourquoi ? Parce que quand on va dans beaucoup de musées à l'étranger, on va voir les masques sont des dons. Si vous allez dans la section africaine, souvent vous allez voir que c'est des dons anonymes. Il n'y a pas des noms. Mais si vous allez fouiner dans les recherches, moi j'ai eu l'occasion, vous allez voir que souvent c'est des prêtres qui ont ramené ça. Et à leur mort, leur famille ont fait un don. Ou bien c'est un prêtre qui l'avait ramené, sa famille, quand il est mort, sa famille l'a vendu parce qu'il ne savait pas quoi faire avec. Et ainsi de suite le truc. Donc je me dis, mais ces fameux prêtres qui ont voulu que je sois catholique, fervent, pour que j'aille au ciel, ce sont les mêmes prêtres qui ont, pas tous, mais la plupart, ont pris des objets et l'ont ramené ici. Mais ils ont pris ces objets pourquoi ? Parce qu'il y avait une esthétique. Ils ont pris ces objets parce qu'ils étaient beaux. Ils ont pris ces objets parce que ça racontait une histoire. Mais ils ont fait croire à mes ancêtres tout justement que ces objets étaient démoniaques et ainsi de suite. Et le pagne en soi, c'est un pagne qu'on a utilisé pour le mariage de ma sœur, parce que le mariage, on donne des pagnes. En fait, dans le recours authentique, en fait, je mets tous ces éléments qui sont reliés à mon histoire personnelle. Par exemple, sur la chaise, il y a un pagne, mais c'est les pagnes des 50 ans des indépendances, de 50 ans des indépendances du Congo, et qui, pour moi, qui n'est pas vraiment une indépendance que ce soit, mais je l'accepte, c'est l'indépendance parce qu'il y a mes grands-parents aussi qui se sont battus avec Lumumba et les autres, au fait, pour avoir cette indépendance-là. Donc, c'est un peu cette histoire de dire, celui qui veut que je sois authentique là, maintenant, C'est tout ça fait de moi l'authentique.
L'authentique, c'est ça l'authentique africain que tu es en 2000.
Que je suis en fait. Je ne peux pas être l'authentique africain avec le
pain, pas le pain, les feuilles de bananier.
Les feuilles de bananier et tout
quoi,
ça, ainsi de suite. Et en passant, tous les Africains ne portaient pas les feuilles de bananier. Mais en même temps aussi, ça, je fais beaucoup de clins d'œil parce que je fais aussi un clin d'œil à un très grand artiste camerounais. C'est grave que j'oublie même son nom là maintenant parce que je peux pas oublier. C'est grave que j'oublie son nom qui a fait une œuvre photographique où il est assis et il dit c'est le chef traditionnel qui a vendu l'Afrique aux colons. C'est pas Romuald Azoumé. Est-ce que je peux oublier son nom? C'est grave ça. Okay. Mais bon, mais en tout cas je fais des clins d'œil à des artistes qui étaient avant moi qui en ont parlé et je fais des clins d'œil à Mobutu, je fais des clins d'œil à ma propre famille. Et à tout ça, en disant, mais là, je fais cette photo à Montréal. Si on regarde les couleurs qui sont sur la photo d'été ou d'hiver, j'ai saturé les couleurs. Et là, je sature les couleurs exprès. Pourquoi ? Parce que dans l'imaginaire occidental, quand on fait un film, on sature les couleurs. Quand les films sont faits en Afrique, les couleurs sont saturées. Et j'ai toujours dit aux gens, mais je ne comprends pas, parce que le vert d'un citronnier en Afrique, c'est le même vert qu'un citronnier au Québec. Hein, c'est le vert. Parce que c'est le soleil, la lumière qui tape. Donc les couleurs en Afrique ne peuvent pas être plus vives
qu'elles le sont ici.
Mmh. Parce que s'il y a le soleil ici, les couleurs vont être vives pareil. On a le même soleil. Mmh. Le soleil n'est pas différent. Mais dans l'imaginaire inconscient des gens, tout ce qui est Afrique, tout ce qui est exotique, doit toujours être éclatant. En fait, cette photo-là, c'est un peu de tout ça que je parle dedans.
Qu'est-ce que je suis content de t'entendre décrypter. J'appelle ça décrypter cette photo. Moi, je l'ai regardée, c'était magnifique. Je voyais des couleurs, mais je n'ai pas vu tous ces signes-là.
Ça, c'est ma folie.
C'est cette folie que je voudrais interroger. Parce que pendant que tu parlais, à un moment donné, j'ai voulu te dire, est-ce que la nuit, tu dors comme nous? Ou alors ton cerveau, il cartonne? Parle-moi un peu de ton processus de création. Entendons-nous, parce que tu fais plusieurs choses
en
même temps.
Choses,
mais une photo comme celle-là, parce que nous, on appelle ça la photo. Okay, il y a une photo, mais la composition de cette photo, c'est un travail qui prend combien de temps?
Honnêtement,
si on peut parler en termes de temps.
En termes de temps, je ne pourrais pas te dire combien de temps. Enfin, j'ai pas calculé le temps, parce qu'à chaque fois que je fais une œuvre, je prends des notes. D'abord, moi, j'ai grandi dans une famille des politiciens.
Okay.
Ma mère et mon père étaient des gens qui faisaient partie d'un parti politique à l'époque de l'opposition, comme Mobutu était là. Un autre parti, pas celui qui s'appelait Luféry, pas l'UDPS, Luféry, au fait. Et donc, j'ai grandi dans une famille, un peu comme la majorité des Africains, on parle politique, religion, histoire.
On a
toujours baigné là-dedans, au fait. Et donc moi, par exemple, nous, à la maison, on faisait, quand mon père n'était pas encore rentré, on faisait le résumé du journal télévisé. J'ai grandi comme ça, au fait. Donc j'ai quand même cette un peu conscience politique, même si ça ne se voit pas. Mm-hmm. Les gens qui me voient, ils ne vont pas le voir tout de suite.
Tes œuvres sont très politiques, Maurice.
Oui, mes œuvres sont...
Ne fais pas de la politique dont on parle là, mais
j'en fais en dessous.
Tes œuvres sont très politiques.
Et en fait, mon processus de création, c'est comme ça que je dis que le temps, je ne peux pas le calculer, parce que quand je pense à une œuvre, je fais appel à toutes ces choses-là, au fait. Mmh. Quand il m'arrive quelque chose, je prends toujours des notes ou je garde dans mes souvenirs. Et des fois, quand je fais une œuvre, il y a des choses, au fait, de mes souvenirs qui reviennent. Mmh. Tu sais, quand on dit « Ah, mais ça fait un lien avec telle histoire ». Ou bien, ce qui est bizarre, je ne sais pas si c'est une chance ou quoi, comme je suis un peu superstitieux, quand je fais une œuvre, autour de moi, c'est cette période-là, quand je pense à une œuvre, dans les journaux, dans les documentaires, il y a toujours les mêmes sujets qui reviennent. Même si j'ai déjà des éléments, même si je fais mes recherches, mais c'est bizarre, à chaque fois que je fais une œuvre, il y a toujours des éléments autour qui me permettent de construire encore plus. Donc je prends vraiment le temps, parce que ce qui m'intéresse quand je construis mes œuvres, je veux avoir de l'ironie dedans. Je veux avoir... C'est la ligne de base.
Ouais.
Quand je fais une œuvre, je dis, si je ne souris pas pendant que je fais une œuvre, ça veut dire que l'œuvre n'est pas intéressante. Mmh. Si je ne rigole pas pendant que je conçois mon œuvre, c'est que l'œuvre n'est pas intéressante. Je veux en fait inviter
le spectateur...
La vie
est une ironie, Mauridia ?
Ah oui, je pense qu'on a... Moi, j'ai besoin d'ironie, sinon je serai en colère tout le temps. Parce que... oui, je vis ici aujourd'hui, mais j'ai grandi au Congo, donc j'ai vécu 2 pillages. J'ai vécu 2 fois la guerre. J'ai vécu la mort d'un... j'ai vécu beaucoup de choses qui, des fois, peuvent te mettre en colère tout le temps. Alors, moi, j'ai fait le choix, ma colère, de la sortir par mes œuvres, mais de ne pas faire que la colère que je mets dans mes œuvres empêche le spectateur de venir dialoguer avec ma colère.
Okay.
Donc c'est comme ça que l'ironie me permet d'avoir une distance. Cette distance va faire que le spectateur va venir devant l'œuvre, va prendre le temps de comprendre l'œuvre. Parce que je me dis, si je crache tout ma colère comme un venin, le spectateur va partir.
Ça va le repousser.
Ça va le repousser. Mmh. Donc pour moi, l'ironie est importante. Et puis aussi, j'oublie le terme, mais un peu être sneaky, c'est pas le terme, mais je cherche le...
Sournois ?
Oui, j'aime être un peu sournois, être un peu... ça, c'est toute l'éducation politique française, européenne qu'on a avec les émissions françaises qu'on suit tout le temps, Chirac et autres. Donc... tous ces éléments-là, ça me permet de construire mon œuvre. Donc, c'est comme ça que je dis, prendre le temps que ça prend, je ne sais pas. Par exemple, il y a une œuvre qui est dans l'expo AFI. Mm-hmm. C'est depuis 2018 que je pense à l'œuvre.
Ok. On va en parler. Je propose qu'on fasse la pause obligatoire et puis on va parler de ça.
L'Institut Néo-Québec présente le 26 octobre 2023, de 18h à 21h, les Grandes Conversations saison 2, avec comme invité spécial Alexander Sinora, consultant en management et cofondateur du Black Wolf Club, le 26 octobre 2023, au 2050 rue Crescent. Place limitée et inscription sur Eventbrite. Les Grandes Conversations saison 2, une présentation de l'Institut Néo-Québec.
Voilà, toujours en compagnie de... Le Morija, c'est comme ça que je vais t'appeler maintenant, ça c'est clair, c'est comme ça que je t'appelle maintenant. On parlait de l'œuvre actuelle, Habiter l'imaginaire, qui se termine, quoi, 19h, hein, les gens ont encore du temps, là, aller au centre Phi. Je lisais quelque chose, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, pourtant il a été là quand même pendant toute cette période-là.
Vraiment ?
Non, je vais t'expliquer après. Quand on va finir là, hein, on va se parler à côté, je vais t'expliquer. Mais grosso modo, voilà aussi quelque chose qui, selon la présentation qui en est faite, c'est un peu tout ton parcours. Et tout ton parcours, notamment face aux différentes agressions discriminatoires que tu as subies à travers un peu tout ton parcours. Est-ce que tu nous en dis un mot ?
Bon, en fait, l'exposition Habiter l'imaginaire, je l'ai appelée comme ça aussi. Moi, j'aime faire beaucoup de références. Donc, en référence à Habiter le monde de Felune Sarr, un livre que j'ai vraiment trouvé, que je conseille vraiment à tout le monde de lire, même s'il est sénégalais, mais c'est un livre qui parlerait à tout le monde, sans origine. Tout le monde devrait lire ce livre-là. Et pour moi, Habiter l'imaginaire, c'était tout simplement d'inviter les gens à venir comprendre la folie, comme je dis, qu'il y a dans ma tête. Comme tu dis, je dors pas. Oui, je dors, mais je pense beaucoup, en fait. Et je parle de matière, je parle au fait, dans cette exposition-là, je parle de l'exploitation, je parle de comment est-ce que l'humain transforme l'espace, le territoire, comment est-ce que le territoire nous transforme aussi, parce que chaque territoire a son identité, son histoire et ses imaginaires. Et y a une œuvre, pas toute l'expo, il y a une œuvre tout simplement cycle, où je fais une métaphore entre le racisme systémique et l'écologie, au fait. Parce que pour moi... Ce que j'ai vécu en termes de discrimination, c'est pas différent ou plus difficile que ceux des autres. Et souvent, j'ai même pas envie de m'attarder. C'est comme ça que je trouvais un moyen de vouloir en parler, parce que à chaque fois que j'ai vécu une discrimination, ma question, comme à chaque fois que je vis quelque chose, que ce soit l'amour, la joie, ou je me pose toujours des questions. Faut pas me demander pourquoi, je sais pas. Je me suis toujours dit la question, mais c'est qui profite quand moi je vis une discrimination? Qui en tire profit, au fait? Et donc la Cycle, c'est une entreprise que j'ai créée qui a pour mission de recycler le racisme.
Okay.
Les gens vont me dire, mais pourquoi il veut recycler le racisme? Il faut enlever le racisme. Je dis non, en fait. Dans mon œuvre, je dis clairement aux gens, si vous avez envie d'être raciste, je m'en fous, soyez raciste. Parce que je ne veux pas passer ma vie, en fait, je ne suis pas venu sur Terre pour passer ma vie à vous expliquer de ne pas l'être. Et en fait, c'est un peu, si je veux résumer vite fait cette œuvre-là, elle parle de ça. Parce que quand on part au premier, au deuxième étage, vraiment,
elle est sur quatre étages.
Donc au premier, au deuxième étage, on a des peintures inspirées qui sont faites de ma série Kiromancie, qui parle du territoire. Le territoire dont on parlera tantôt avec mon engagement aussi dans le territoire dans lequel je vis. Ça vient aussi de mes études à La Rochelle, parce que j'ai fait des études en politique et développement territorial, au fait.
Okay.
Donc je suis vraiment intéressé à comprendre... comment, là où on vit, ça nous transforme, et comment nous, on transforme ces espaces-là.
Ça nous ramène encore à l'authentique.
À authentique, en fait. Et donc, ça nous ramène aussi à la question de Léopold II, parce que dans Kiromancie, je suis à la recherche d'un espace qui serait idéal pour moi, mais un espace dont j'aurais décidé les formes, les frontières, les cours d'eau et ainsi de suite. Et donc, ces peintures sont, commencent avec les lignes de ma main.
Okay.
Donc, parce que je prends les lignes de ma main, chiromancie, c'est lire les lignes de la main. Donc, je les prends comme une carte. Et dans cette idée que je lis mon passé, mon présent et mon futur. Donc, je construis. Mais dans ces peintures-là, j'intègre des lieux qui existent. Ça, c'est aussi merci... comme je n'ai pas de satellite encore, comme l'autre monsieur qui a son satellite, donc moi j'utilise Google pour l'instant. Donc merci à cette. Donc ça me permet d'aller voir des espaces, mais ça me permet aussi de, des discussions que j'ai avec les gens quand je rentre au Congo, des choses qui se passent à l'Est. Ça, c'était aussi une façon pour moi de dire j'ai envie de parler de ce qui s'est passé dans mon pays, ce qui se passe dans mon pays. Donc ces œuvres-là m'ont permis tout justement de parler de territoire. Et dans un territoire, je vis certaines choses. L'amour, j'ai rencontré ma femme ici, j'ai un enfant ici, j'étais rencontré, je rencontre des gens. Mais aussi les discriminations, ça fait partie
ça
des
fait
choses
partie
que je
de
vis.
De,
voilà, ouais.
Tout,
donc tout c'est comme important. Ça que l'exposition, en gros, c'est... On a un macro, et de façon micro-macro, un peu de tout ce que moi je vis dans un espace.
Je voudrais, avec les quelques minutes qui nous restent encore, je voudrais qu'on aborde un aspect. J'ai dit, il y avait l'artiste, mais tu viens de le dire, un artiste qui vit dans son milieu. Il en tient compte. C'est aujourd'hui ton implication qui fait que tu as, ça t'a mené, par exemple, ça t'a mené, tu es aujourd'hui à la tête de, du président du conseil d'administration de Culture Montréal. Tu as dit tantôt qu'étant Kinshasa, toute ta formation, au début, c'était sur l'art occidental, la théorie de tous ces maîtres de la Renaissance et tout. Mouridja, est-ce que ça n'est pas la raison pour laquelle les Africains, on va arriver à un débat auquel on avait participé une fois tous les deux, ne consomme peut-être pas la culture comme elle est consommée ici. Parce que on est à l'école des Beaux-Arts de Kinshasa, on est en train d'étudier les maîtres de la Renaissance occidentale. Mais on n'étudie pas l'art africain. Est-ce que ce n'est pas déjà là la raison pour laquelle les Africains, même quand ils sont en diaspora, et on en a discuté, on va parler philanthropie quelques minutes, n'arrive pas à consommer la culture alors que toi, Palina qui est artiste, plein d'autres qui sont dans des organes, nous luttons, nous voulons sensibiliser les gens à consommer la culture.
Moi je dirais oui et non.
Okay.
Parce qu'on consomme la culture, mais on n'est pas obligé de consommer la culture comme les Occidentaux consomment la culture.
Okay.
Ou comme les gens du Moyen-Orient consomment la culture, ou ainsi de suite. Je pense qu'on consomme la... On consomme la culture, mais on n'y met pas les moyens pour la développer. On n'y met pas les moyens pour la développer à notre manière.
Okay.
Moi, j'ai été heureux d'apprendre l'art occidental, les maîtres de la Renaissance, et je conseille même
oui,
que les écoles
pas, oui.
de pouvoir. Parce qu'il y a une chose qu'on souvent on fait. J'étais aussi parmi de ceux qui disaient ah on nous oblige à copier les Occidentaux. Non, non. Les Occidentaux ne nous étudient pas.
Mm-hmm.
Donc nous, on a cette richesse de pouvoir étudier les autres. Donc, à nous d'investir pour savoir comment est-ce qu'on fait de cette richesse quelque chose d'important. Les gens qui arrivent ici, tu sais, on arrive ici, moi, je ne mangeais pas la poutine avant. Ben, maintenant, je mange la poutine. Donc, personne ne nous empêche d'aller voir une pièce de théâtre. Même si on a... Moi, j'étais à l'école des Beaux-Arts à Kinshasa, mais je n'étais jamais allé dans un musée. J'étais à l'école des Beaux-Arts de Kinshasa, mais je ne lisais pas des livres. Non, parce que dans ma culture... On va pas, il y a pas de musée, il y a un musée, mais le musée est construit par la Corée et la Chine. Bon, ça, on n'aura pas le temps d'en parler, encore autre chose. Mais c'est l'idée d'investissement, en fait. Nous, on investit dans autre chose. Mais le travail, dont on a parlé avec toi tout justement, le travail qu'on a à faire, c'est le travail d'éducation. Parce que même ici, où on vit au Québec, il y a un travail d'éducation qui est fait pour que les gens consomment la culture. Donc, c'est pas le Québécois de... Si on peut dire ça comme ça, le Québécois de souche, quand il naît, il ne va pas tout de suite au musée. Il ne va pas tout de suite au théâtre. Donc, il y a tout un travail d'éducation qui est mis en place. Alors, là, on va revenir. On va pas avoir le temps d'en parler, mais il faudrait toute une émission sur ça.
Ouais.
Nos chefs d'État...
Non, on va la faire. Là tu me donnes envie.
Nos chefs d'État, nos hommes politiques, nos entrepreneurs, nos grands entrepreneurs ou entrepreneurs que nous avons, et même ici, ces entrepreneurs-là, au fait, ils ne veulent pas comprendre. Moi je pense que je lance la pierre aux autres, mais j'aime aussi nous lancer la pierre. Quand on va, tantôt je parlais d'un espace... Un espace, ça nous transforme. Nous aussi, on transforme l'espace. Et je pense que c'est l'éducation que ça prend. C'est l'éducation. On consomme la musique.
Mmh. Oui, oui, tout à fait.
On a des pièces de théâtre. On regarde beaucoup de pièces de théâtre. Mmh. On a des humoristes. On regarde. Donc, ça veut dire qu'on consomme la culture. Mais nous ne consommons pas la culture de la même manière. Et puis, il y a quelque chose aussi qu'on doit faire. On vit au Québec.
Oui.
On ne peut pas toujours consommer ce qu'on consommait, par exemple, chez moi à Kinshasa.
Bien sûr.
Parce qu'on est au Québec. Le Québec ne va pas produire des artistes congolais pour que nous, on consomme les artistes congolais.
Non.
Donc, c'est à nous d'éduquer et de produire et de financer des fois nous-mêmes, mais comment est-ce qu'on pourrait consommer notre propre culture, mais en faire un lien avec la culture d'ici,
tout à fait.
Et parce que c'est une richesse. Moi, je dis toujours aux gens, les gens ne vont pas venir voir nos choses. Les gens ne vont pas venir voir ce que nous on fait parce que on part du principe qu'ils nous ont colonisés. Moi, j'appelle ça dans le subconscient, même si aujourd'hui on sait qu'il n'existe plus de colonisation, dans le subconscient, les gens ne considèrent pas notre culture.
Ouais.
Donc, nous,
on a à nous de la valoriser.
Ouais. On la valorise d'abord pour nous, parce que c'est l'erreur qu'on fait souvent. On veut valoriser notre culture pour les autres en disant, regardez, nous aussi, on a un acteur de théâtre qui est comme le vôtre. Nous aussi, non. On doit d'abord faire le travail de valoriser simplement pour nous. Moi, quand je fais mes œuvres, oui, je suis content d'être à la Fondation Filles ailleurs et tout ça, mais je le fais d'abord pour moi. C'est comme ça, quand je donne l'exemple de cycle, je me dis, ben, je m'en fous, en fait. Si vous avez envie de faire ça, faites ça. Donc, on doit prendre... C'est un travail, hein. Ça ne va pas se faire en une journée, en une génération.
Oui, alors cette valorisation-là, il y a différentes façons de la valoriser. Tu parlais aussi d'investissement et ça m'amène à la philanthropie.
Oui.
Tu es là aujourd'hui, on a partagé un panel là-dessus. La philanthropie. Alors moi, je sais que j'avais un point de vue. J'étais en train de dire, ben, la philanthropie. Pardon. On n'y pense pas ou on ne la fait pas, si on peut appeler ça comme ça, faire de la philanthropie, notamment en culture, parce que nous ne consommons pas la culture. Bon, là, tu viens un peu de le détruire parce que tu dis, ben, en fait, c'est juste que nous ne la consommons pas comme ici. Tu as Culture Montréal aujourd'hui, nous sommes ici, comme tu dis, on est au Québec. Comment amener les nôtres à s'intéresser à la culture, deux, à investir dans la culture, la philanthropie grosso modo, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Ben, en fait, moi à Culture Montréal, évidemment, je suis à Culture Montréal pour tout.
Oui, non, Montréal. Pour tout Montréal. Oui.
Ça, je l'explique pour les gens qui vont comprendre.
Oui.
Donc, pour tout Montréal. Et j'apprends aussi énormément là-bas. En fait, emmener les autres, les nôtres à consommer la culture, c'est d'abord quelle culture on veut leur faire consommer.
Mais toutes.
Bon, toute culture.
Oui,
alors,
pourquoi pas.
C'est important. Oui. Quand je pose la question, on les emmène à consommer la culture. Mais comme je dis encore une fois, c'est l'éducation. Moi, je rêve en tout cas, c'est si j'ai l'occasion de le faire, je n'ai pas encore mis le temps qu'il faut, j'ai envie de rencontrer ce qu'on appelle ici les hommes et les femmes d'affaires qui viennent de l'Afrique, qui sont ici, parce qu'il y en a. Il y en a plein qui rencontrent les grands de ce pays, de cette province, qui parlent. Mais je vais être un peu méchant aujourd'hui.
Non, vas-y.
Je veux dire qu'on passe notre temps à vouloir devenir maire, député, et ainsi de suite, juste pour nous-mêmes. Mais on ne passe pas le temps à le faire pour bâtir une communauté. Parce que les autres communautés, on a beaucoup d'exemples des autres communautés ici. Tu sais, je veux te raconter une histoire. J'ai eu à un moment donné à aller frapper les portes de certaines personnes, leur dire, il y a un projet qui va se faire, c'est un projet qui concerne l'Afrique subsaharienne, et il n'y a aucun Africain qui a donné l'argent. Mais tu sais, tu peux même donner $500, $100, $2000, pas beaucoup. La personne m'a dit, oh non, j'ai pas besoin de toi pour faire ça. Je suis allé voir. Et tout le monde m'a donné la même réponse. Parce qu'on était dans le mode. Tu sais, le mode qu'on a chez nous, là. Là, je parle d'une tranche, au fait. Le travail qu'on a à faire, c'est un travail des gens qui doivent sacrifier du temps. Moi, je suis partie prenante. S'il y a des gens qui m'écoutent et qui veulent qu'on le fasse ensemble, je suis partie prenante pour qu'on le fasse ensemble. C'est un travail d'éducation aux personnes qui ont les possibilités et les moyens. Dans ce pays ici, dans cette province ici, il y a les lois fiscales qui te permettent de soutenir pour la philanthropie. Il y a des lois fiscales qui te permettent... Il y a beaucoup de choses. Et il y a aussi une autre chose où je vais être un peu méchant, même si les gens ne vont pas m'aimer.
Ça va être la dernière chose.
La dernière chose, c'est qu'on ne veut pas... On veut pas nous-mêmes s'éduquer pour comprendre comment fonctionne ainsi. On le fait pour autre chose. Quand je veux devenir chef d'une entreprise, je vais aller voir tous les liens. On parle de culture ici depuis tantôt. On dit culture. À un moment donné, regarde, qui passe à la télé qui nous ressemble? Il y en a combien? Qui fait de la musique ici à la radio qui passe, qui nous ressemble? Il y en a combien? Qui fait du théâtre? Il y en a combien? Donc, même toi-même à la maison, quand tu regardes pour tes enfants, tu ne te poses pas la question de dire, mais moi, je suis chef d'entreprise, j'ai envie que quelqu'un qui passe là-bas ressemble. En fait, c'est les questions qu'on ne se pose pas. Donc, si les gens ne se posent pas les questions, le travail que nous avons à faire, toi, moi, ou Palina, ou les autres, c'est d'aller leur dire, voici, aujourd'hui, pose-toi cette question, et puis ensemble, on va trouver des solutions. Mais je dis, c'est un travail d'éducation, c'est un travail qui va prendre du temps, mais il faut le commencer maintenant.
Merci beaucoup, puis on se dit à très bientôt. Merci encore d'être
merci
venu.
Merci en tout cas pour merci. L'invitation, et à très bientôt.
À très bientôt. Mon nom est Cyril Ekwala.